On a, au travers des chants, notamment parlé là de la difficulté si les montagnes s'éloigneraient, qu'il y a des moments difficiles, c'est vrai, dans la vie que Dieu nous permet de vivre. Il y a quelque temps, j'ai regardé ce film qui parle de moments difficiles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est plus très récent maintenant, je vous encourage à le voir, c'est lié à une histoire vraie en tout cas. Ce film Amistad nous parle en fait d'une révolte d'esclaves noirs sur un négrier, sur un bateau négrier qui s'appelle justement ce bateau l'Amistad. Et ces esclaves ont été rattrapés par la marine américaine. Et tout au long de ce film, au travers du procès, le cinéaste nous fait parcourir la vie de ces esclaves, depuis le moment où ils ont été capturés en Afrique jusqu'au moment où ils ont été amenés en Amérique. Et je dois vous avouer qu'après ce film, après l'avoir regardé, en fait, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Pas parce que le film était particulièrement violent. Alors c'est vrai qu'il pouvait y avoir l'une ou l'autre scène dure, mais j'ai pas dormi parce que, en fait, on se disait, mais ça s'est vraiment passé. C'est pas les scènes qui étaient violentes, mais c'est l'histoire qui a été extrêmement violente. Ça s'est réellement passé ainsi. Et ça a été dur. Et c'est vrai que parfois, je me disais pendant la nuit, mais comment est-ce possible? Comment l'homme a pu faire autant de mal à un autre être humain? Et je l'ai montré après au groupe de jeunes pour qu'on puisse en discuter justement, alors pas ici en Alsace. Et certains jeunes étaient habitués à certains films violents. Mais c'est vrai qu'ils m'ont dit aussi après la fin du film, Philippe, pourquoi tu nous as fait regarder ça? Ils étaient choqués aussi, non pas encore une fois à cause des scènes, mais choqués que dans l'histoire, l'homme a vraiment fait ça. Comment est-ce possible? Et la question, c'était aussi, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi Dieu a laissé faire cela? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi Dieu est resté silencieux? Et c'est vrai que parfois dans nos vies, on passe par ces moments-là, n'est-ce pas? Des moments durs dans notre vie, on se dit, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu permets cela? Pourquoi es-tu silencieux? Et pour certains d'entre nous, on est là en fait parce que on a dû fuir une situation, n'est-ce pas? Certains d'entre nous ont fui une situation, notamment en Afrique, assez difficile. Ils ont risqué leur vie pour fuir un dictateur et se retrouver ici. Un dictateur qui vit dans le luxe et la tranquillité, alors que d'autres ici ont galéré pour tout recommencer. Et la question peut vite venir aussi, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Que fais-tu? Et ce pourquoi, en fait, on le retrouve à de nombreuses reprises dans la Bible. Et de manière assez extraordinaire, plusieurs auteurs nous confrontent et nous amènent ensemble à réfléchir à ces silences de Dieu, à ce pourquoi, pourquoi tant de violence? Pourquoi cette injustice? Que fais-tu, Seigneur? Où es-tu? Et parce que ça fait partie de la vie, au final, de chaque croyant, de chaque être humain à un moment donné dans sa vie, j'aimerais vous inviter à en prendre un de ces textes. C'est le psaume 10 qui nous invite à réfléchir. Le psalmiste nous invite avec lui dans son pourquoi, nous invite dans son vécu, au travers de sa prière qu'il adresse à Dieu. Et on va remarquer que ce psaume, comme la dernière fois, ne contient pas de suscription, c'est-à-dire de texte qu'il introduit pour nous dire qui l'a écrit et dans quelles circonstances il l'a écrit. Ce qui veut dire en fait que l'auteur nous laisse beaucoup de latitude pour nous approprier encore une fois sa prière, pour nous approprier encore une fois son pourquoi par rapport à nos pourquoi à nous, par rapport à nos douleurs, à nos difficultés, à nos incompréhensions. Et je vous invite alors à lire ce psaume. Psaume 10. Alors peut-être, petite parenthèse, certains pensent qu'il était rattaché au psaume 9, donc qu'il est à la suite et donc qu'il viendrait de David. Mais voilà, depuis longtemps, il nous est prévenu comme ça. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des mauvais desseins qu'ils ont imaginés. Car le méchant se loue de sa convoitise, et le profiteur maudit et outrage l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas !»« Il n'y a point de Dieu !» Voilà toutes ses réflexions. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancellerai pas. De génération en génération, moi qui suis à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue malheur et injustice. Il se tient en embuscade près des villages. Il tue l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheur. Il est en embuscade dans un lieu écarté, comme le lion dans sa tanière. Il est en embuscade pour surprendre le malheureux. Il surprend le malheureux en l'attirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent en son pouvoir. Il dit en son cœur, « Dieu oublie !» Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Dieu, élève ta main. N'oublie pas les humbles. Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur, « Tu ne punis pas ?» Tu as vu quant à toi la peine et la souffrance. Tu les regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les païens sont exterminés de son pays. Tu entends les désirs des humbles, Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Pourquoi, Éternel ? Au travers de ce psalmiste, ce qui est très étonnant, comme plusieurs de ses autres textes, c'est que le psalmiste, et au final Dieu lui-même, nous invite à venir à lui avec nos pourquoi. Il ne nous dit pas « soyez toujours joyeux ouais, », c'est vrai qu'il y a ce texte-là, d'accord, mais toujours le sourire sur la tête. Non, non, venez avec vos pourquoi, exprimons à Dieu nos douleurs. Et le psalmiste nous invite à cela, à exprimer notre douleur, à exprimer nos émotions, tout en laissant notre foi, au final, orienter ces émotions-là. Je vous invite à reprendre ce texte pour mettre cela en évidence. Et dans un premier temps, le psalmiste nous invite, et nous, à sa suite, comme le psalmiste, exprimons notre incompréhension et notre douleur face à l'injustice. Et comme dit, voilà, le psalmiste commence tout de suite avec ces paroles très fortes. Pourquoi ? Pourquoi, Éternel ? Et il nous exprime son incompréhension. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et assez étonnamment, le psalmiste utilise ici le nom de Dieu, traduit l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse notamment, pour faire cette alliance, cette relation entre lui et son peuple. Donc c'est ce nom qui parle du Dieu de relation, du Dieu proche. Et de manière paradoxale, l'auteur nous dit « Pourquoi toi, le Dieu proche, tu es loin ?» Et même de manière volontaire, « Pourquoi toi, le Dieu proche, tu te caches ?» Pourquoi ? Et il est face à ce paradoxe. Justement quand l'homme a besoin de toi, justement quand il y a la détresse, justement quand on n'en peut plus, quand l'injustice nous submerge, pourquoi te caches-tu ? Donc l'auteur ose ici questionner Dieu face au mal qu'il voit, face à l'incohérence et face à l'injustice. Il comprend que ça ne devrait pas se poser ou se passer ainsi, pardon, et alors il pose ici et il nous invite à sa suite à poser des mots sur sa douleur. Pourquoi ? Et plus qu'une description froide, l'auteur continue à déballer ses sentiments face à tout ce qu'il observe, face à toute sa douleur de cette injustice. Il continue sa plainte qui provient de son expérience. Et il va nous exposer son incompréhension. Première incompréhension, pourquoi c'est le règne de l'orgueil actuellement ? Et il insiste sur cela dans les versets 2 à 4. Voilà, l'orgueil, les méchants dans leur orgueil poursuivent les malheureux. Voilà leur dessein, voilà sa convoitise. Ils outragent Dieu. Et le méchant, verset 4, dit avec arrogance. C'est le règne de l'orgueil. Le temps où l'homme est constamment tourné sur lui et sur son intérêt. Il est son propre maître et il fait que ce qui lui passe par la tête. Cela l'amène à mépriser autant le malheureux que les opprimés, que mépriser Dieu lui-même. Pour lui, Dieu est loin, Dieu n'intervient pas, voire Dieu n'existe pas. Et à cause de cela, chacun sa route. Chacun fait ce qui lui plaît. Et il le fait sans ménagement pour son intérêt. Et ici, c'est vrai que dans l'introduction, j'ai parlé des dictateurs, mais il ne faut pas seulement voir les dictateurs. Le règne de l'orgueil, le règne du chacun fait ce qui lui plaît, on le trouve aussi malheureusement dans nos familles, n'est-ce pas ? Voire dans nos couples, dans nos entreprises ou parfois dans nos groupes d'amis. Ça nous concerne aussi. Deuxième source d'incompréhension, c'est que ces orgueilleux réussissent. C'est assez terrible. Ils méprisent Dieu, ils outragent Dieu, ils vont à l'encontre de Dieu et ils réussissent. Verset 5. Ils ne prêtent aucune attention à Dieu. Ils y arrivent. On avait une amie quand on était étudiant avec Claire à Grenoble qui 5 fois a passé le concours de l'éducation nationale pour être prof de maths. 5 fois, 5 années à travailler et à travailler dur et à presque y arriver et à ne pas y arriver. 5 années où c'était difficile et 5 années où elle a pleuré. Pourquoi ceux qui méprisent Dieu y arrivent ? Alors que moi, je sers Dieu et elle s'est beaucoup investie dans l'Église. Pourquoi je n'y arrive pas ? On a aussi un ami qui est célibataire, on l'a connu. Il avait 25 ans et actuellement, il a 47 ans. Ouais, 47 ans. Toujours célibataire. Et il a traversé ces moments, il était à côté de lui, où il pleurait. Pourquoi, moi qui veux honorer Dieu dans ma vie, dans ma sexualité, dans mes sentiments, pourquoi, moi qui ai le désir de me marier, je ne trouve pas ? Et il pleurait. Et il demandait, mais est-ce que Dieu m'a oublié ? Pourquoi les autres et pas moi ? Ils réussissent. Incompréhension. Troisième source de questionnement. Eux, ils sont en sécurité. On dirait que rien ne les atteint. Et il nous montre ceci au verset 6. Je ne chancellerai pas. Pas de problème de génération en génération. Je ne sais pas si vous avez regardé l'actualité dernièrement. Ça se trouve en France, hein, mais ça a été aussi dans les journaux suisses. Le groupe Kering, qui appartient Printemps, La Redoute, la FNAC aussi, je crois, etc. Hein. Le propriétaire a été attrapé par la justice italienne et il a une petite amende pour fraude fiscale de 1,25 milliard d'euros. Voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire, 1,25 milliard d'euros, n'est-ce pas ? Mais il a cette amende-là, lui, pour fraude fiscale. Mais à côté de cela, même s'il a cette amende-là, il a encore fait des millions et des millions de bénéfices. Et lui, il n'est pas inquiété par la justice. Il n'ira pas en prison comme le petit contribuables. Pourquoi ? Ils réussissent. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont en sécurité. Injustice. Pourquoi ? Et l'auteur est confronté à cela comme encore aujourd'hui. Nous sommes pleinement confrontés à cela. Quatrième source d'incompréhension, la duperie de ces orgueilleux. Verset 7, sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraudes. Il y a sous sa langue malheur et injustice. On ne peut pas croire à ce qu'ils disent. Ils disent tout et leur contraire. Et écoutons certains de nos présidents actuellement pour se rendre compte de cela. Et même si les paroles ne sont pas injurieuses, de type grossière, elles détruisent terriblement. Rappelons-nous, si ce n'est pas encore actuel, qu'est-ce qui nous a fait le plus mal quand on était avec nos parents, ou peut-être de la part de nos frères et sœurs, parfois de la part de nos amis? Est-ce que c'est d'avoir été frappé, ou c'est d'avoir entendu un mot blessant? Qu'est-ce qui nous a vraiment fait le plus mal? Et ce qui nous reste, n'est-ce pas, c'est pas les coups. Ce qui nous reste, c'est le souvenir de cette parole que ta sœur t'a dit. Moi, j'en ai quelques-unes que je me souviens. Malheureusement, je m'en souviens, mais c'est comme ça, on ne peut pas oublier. Mais où je sais que c'est ma sœur, avec ma petite sœur, voilà, c'était toujours qui c'est qui va commander l'autre, hein, d'accord? Et donc, parfois, je me suis pris une claque, je lui ai mis des coups de pied, etc. Mais ça, c'est passé, on s'en fiche. Mais on se souvient de ces paroles qui nous ont blessés, n'est-ce pas? Avec leurs paroles, ils blessent. Et si on regarde malheureusement encore une fois les scandales d'harcèlement sur les réseaux sociaux qui finissent par un suicide, on voit à quel point cela est vrai. Ils sont durs, ils sont méchants, violents, et ils s'en sortent. Ils ont toujours leur cours autour d'eux parce qu'ils aiment ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Et dernièrement, cinquième source d'incompréhension, la violence. Et c'est une violence qui n'est pas frontale, mais c'est par sournoiserie. Regardez le vocabulaire encore que l'auteur utilise. Il nous parle d'embuscade à trois reprises, de lieu écarté, de lion dans sa tanière, de surprendre le malheureux, de le prendre dans son filet. Tout est par derrière. On attaque, on est violent. On se donne des airs irréprochables. De façade, c'est magnifique, mais par derrière, c'est plein de violence, au point que le psalmiste nous parle même de meurtre. Il tue l'innocent. Et le malheureux est pris. Il tombe en son pouvoir, oppression. Et encore une fois, malheureusement, nos grandes multinationales n'ont rien à envier aux dictateurs. Regardez juste encore un peu les scandales des eaux polluées en Asie. Ça, c'est pour nous, hein, pour nos vêtements à nous. Regardez les scandales des conditions de travail des salariés du textile, encore une fois pour nous, au Bangladesh. Oppression. Et il y en a qui meurent de cela. Autrement dit, comme pour notre auteur, on vit en fait dans le même monde, n'est-ce pas? Ça s'est passé il y a des centaines, voire si c'est autant de David, et c'est ce que certains des commentateurs pensent, ça veut dire qu'il y a 3000 ans que ça s'est passé, ou que ce texte a été écrit. Notre monde n'a pas changé. L'homme moderne n'a rien apporté de nouveau, et l'homme moderne n'a rien résolu. Et l'observation de ces injustices peuvent nous pousser à trois réactions. Trois réactions qu'on observe, qu'on fait du porte-à-porte, qu'on parle avec nos amis. Première réaction, Dieu n'existe pas. À cause de ce mal, à cause de cette oppression, à cause de cette injustice, c'est impossible que Dieu existe. Et on ne veut rien savoir de lui. Et franchement, on peut comprendre cette réaction, n'est-ce pas? Regardez le film Amistad. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais on doit aider nos amis ici à aller un petit peu plus loin. Si Dieu n'existe pas, pourquoi on crie à l'injustice, honnêtement? Pourquoi crions-nous à l'injustice? Si on crie à l'injustice, c'est qu'on croit qu'il y a de la justice. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a un Dieu au-dessus de cela. Et on doit les accompagner, nos amis, être présents à côté d'eux. Deuxième réaction, Dieu existe, d'accord, mais Dieu n'est pas bon. Dieu ne nous aime pas, Dieu nous a oubliés, on ne veut rien savoir de lui alors parce qu'on ne peut rien savoir. Et ça conduit malheureusement à un terrible désespoir et un terrible fatalisme. La vie n'a pas de sens et pas de valeur. C'est le règne de l'injustice, du plus fort, du chacun pour soi, et on est condamné à cela. Mais là encore une fois, on doit être à côté de nos amis, et c'est vrai que les faire réfléchir, ça ne correspond pas à nos aspirations les plus profondes. On aspire à la joie, on aspire à toujours quelque chose de meilleur. Pourquoi ? Là, je vous invite toujours, lisez C.S. Lewis, c'est lui qui a les meilleures réponses, je trouve, à cela, parce qu'on a été créé pour la joie. Pourquoi on aspire à la joie ? Ça nous montre qu'on a été créé pour la joie, et pas ce fatalisme. Dieu existe. Mais il y a une troisième réaction, et c'est celle dans laquelle va nous conduire notre auteur. Dieu règne. Dieu existe. Dieu règne, même si nous ne comprenons pas. Alors, crions à lui. Attendons-nous à sa justice. Et c'est le choix que l'auteur fait à partir du verset 12. « Lève-toi, Éternel. Dieu, élève ta main. N'oublie pas. » Face au mal, alors que sa foi est mise à l'épreuve, en fait, l'auteur va nous conduire dans une réponse de foi. Ce n'est pas seulement nos émotions qui vont prendre le dessus, le contrôle et nous conduire, mais ces émotions qui sont un cadeau de Dieu, que Dieu nous a donné pour observer, pour réagir face à ce qui se passe autour de nous, doivent être conduites par notre foi, par notre connaissance de Dieu. Et c'est ce qui nous invite à faire. Il ne laisse pas ses émotions dicter sa conduite, mais il va orienter ses émotions par sa foi. Et c'est là, petite parenthèse, j'aimerais vous encourager à quelque chose si vous ne l'avez pas encore fait. Ayez un papier et un stylo où vous allez noter tout ce que vous avez vu de Dieu dans votre vie, là où vous avez vu Dieu agir. Là où vous avez vu Dieu intervenir dans votre vie, répondre à votre prière, là où vous avez vu Dieu vous donner de la paix, notez-le pour que justement quand ces moments vont encore venir, vous puissiez laisser votre foi en Dieu. Non pas un pas dans le vide, non pas un pas dans l'inconnu, mais un pas en connaissance de ce qu'il a déjà fait pour avancer en lui faisant confiance dans nos nouveaux pourquoi, ces nouvelles injustices. Et l'auteur, le psalmiste, nous invite à cela, à puiser notre paix et notre consolation justement dans l'espérance du règne de Dieu. Il reste face à l'injustice, notre auteur, et il ne nous dit pas qu'il a vu Dieu intervenir. Il ne nous dit pas non plus qu'il a vu Dieu résoudre les problèmes. Mais parce qu'il connaît son Dieu, il se tourne vers lui. Lève-toi, élève ta main. Ça veut dire quoi, élève ta main ? En fait, si on regarde d'autres documents de l'Antiquité, cette main levée, c'était comme ça que les rois et les généraux conduisaient leurs armées. Avec la main levée, cette main puissante d'autorité pour aller écraser l'ennemi en face. Et c'est à cela qu'appelle l'auteur. Il appelle Dieu, lève ta main, tel un roi, tel un général, prends ton armée et va vaincre l'ennemi, va confronter toute cette injustice. Et il s'attend à cela justement parce que Dieu est roi, verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Il fait confiance dans ce qu'il connaît de Dieu, dans le règne de Dieu. Je m'attends à toi. Interviens maintenant, fais justice. Et il va nous dire aussi au verset 15, brise le bras du méchant. Ça ne veut pas dire sois sadique et casse-les en morceaux. Ce n'est pas un désir mauvais de vengeance, mais c'est un désir de justice. Détruis leur pouvoir. Détruis leur injustice. Détruis leur orgueil et leur méchanceté. Fais justice. Ainsi, plutôt que de sombrer dans le fatalisme, dans le laisser-aller, dans la même attitude que ces orgueilleux, le psalmiste s'en remet à Dieu. Et ce qui est remarquable dans ces quelques derniers versets, c'est qu'il va prendre complètement le contre-pied de ce que font les orgueilleux et des propos des orgueilleux. Les orgueilleux disent que Dieu ne regarde pas. Verset 14, tu as vu, tu regardes, tu sais. Dieu voit la situation. L'auteur nous encourage à cette espérance. Dieu sait précisément. On a l'impression, en fait, qu'il n'est pas là. On a l'impression qu'il se cache. C'est un silence apparent, une absence apparente. Mais Dieu sait, tu vois, tu as vu même, tu regardes. Tu sais la situation des malheureux et tu te laisses toucher par elle. Les orgueilleux disent que Dieu ne punit pas. Mais voilà la réalité, verset 15. « Brise le bras, punis sa méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux. » Littéralement, « cherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu ne la trouves pas, ou tu ne la trouves plus. » Cherche sa méchanceté jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Dieu va punir jusqu'au bout toute méchanceté. Dieu va demander des comptes. Le jugement vient, nous dit l'auteur. Et ça va faire mal. Les orgueilleux se disent en sécurité. Mais voilà la réalité. Verset 16, les païens vont être exterminés. Verset 17, les orgueilleux disaient, c'est leur désir qui va être accompli, mais non, tu vas affermir le cœur des humbles, tu vas accomplir le désir des humbles. Et encore verset 18, tu vas faire justice afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Le temps vient où ça va être fini. Le contraste ici est saisissant. Ceux qui s'en prenaient à Dieu, ceux qui s'en prenaient aux hommes, Dieu va s'en prendre à eux. On vit dans cette réalité d'un monde cassé et corrompu par le péché. Et à cause de ces moments-là, chacun d'entre nous, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, nous allons traverser des moments difficiles. Alors, ce n'est pas une invitation à se réjouir des moments difficiles, pas du tout. Mais c'est un appel à la réalité. Nous vivons dans ce monde cassé. Et à cause de cela, nous avons traversé et nous allons connaître encore des moments difficiles où le mal va apparaître de manière démesurée et horriblement triste et incompréhensible. Mais l'auteur ici nous rappelle, face à ces moments, rappelle-toi, il y a une autre réalité. Il y a une réalité ultime, plus grande. Dieu règne, Dieu sait, Dieu voit, et sa justice vient. Si tu vis cela actuellement, sois consolé par cela. Dieu sait parfaitement ce que tu vis. On a l'impression qu'il est silencieux. On a l'impression qu'il ne voit pas. On a l'impression qu'il s'en fiche. Mais la réalité n'est pas celle-là. Dieu sait. Dieu voit. Il se laisse toucher par ton malheur. Et il va agir. Et au final, au travers de ce psaume, le psalmiste nous lance ici dans une réflexion. J'aimerais vous en proposer trois pour nous ce matin. Première réflexion d'application pour nous, comment est-ce que je réagis dans les silences de Dieu? Quand Dieu est silencieux, quand Dieu semble se cacher, comment est-ce que je réagis? Est-ce que ce sont mes émotions qui conduisent mon attitude ou est-ce que c'est ma foi? Encore une fois, je ne dis pas que les émotions sont mauvaises. Bien au contraire, le psalmiste ici nous invite pleinement à exprimer nos émotions. Les émotions sont un cadeau que Dieu nous a fait pour observer notre monde, pour réagir face à notre monde, pour que le mal nous affecte, pour que la peur nous protège, etc. Ce sont les cadeaux de Dieu. Mais comme toute chose, ils ont été corrompus. Ils ont été atteints par le péché. Et notre psalmiste nous invite ici, malgré cela, osons nous avancer avec toutes nos émotions devant Dieu. Osons exprimer nos douleurs, toute notre observation de l'injustice et de la violence. Il ne nous invite pas du tout ici à être stoïque. Dieu règne, alors ça ne me touche pas. Dieu règne, alors tout va bien, j'ai le grand sourire. Non, il nous invite, osons dire pourquoi. Osons pleurer devant Dieu. Osons lui exprimer même notre colère, notre incompréhension. Il y a un pasteur, une fois, qui nous a écrit, en fait. Parce qu'il y avait des temps de pleurs ou d'intercession dans un culte. Il nous a écrit, dans le culte, c'est pas le moment de l'intercession. Le temps du culte, c'est le temps de la joie. Et ce psaume nous montre que c'est faux. Le temps du culte, c'est le temps de vivre ce que Dieu nous donne de vivre selon lui. C'est-à-dire que c'est le moment où aussi on doit oser pleurer. On a une difficulté dans notre société, c'est qu'on n'ose pas montrer nos faiblesses, n'est-ce pas ? On n'ose pas montrer quand ça ne va pas. On n'ose pas exprimer nos douleurs. On a l'impression que pour être un bon chrétien, on doit toujours sourire, toujours être en forme, toujours dire que tout va bien. Mais ce psalmiste ici nous invite à dire « Non, ce n'est pas vrai. J'en ai marre, je ne comprends pas, j'en peux plus, Dieu n'est pas là. » Et franchement, ce serait violent pour nous d'entendre quelqu'un dire « Dieu se cache ». Notre première réaction, « Non, 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 non !» N'est-ce pas ? Ne dis pas ça ! Pourtant, c'est ce que notre auteur nous invite ici à faire. Pas à dire que Dieu s'en fiche, mais j'ai l'impression que Dieu m'oublie, Dieu ne prend pas soin de moi, je ne suis plus sur son radar. Et il nous invite ici à être vrai. Et c'est ça le culte que Dieu veut, être vrai dans toutes nos émotions, être vrai dans tout ce que nous vivons. Osons pleurer, osons dire « j'en ai marre », osons dire « je ne comprends pas », osons accueillir celui qui pleure et osons le laisser pleurer. Mais c'est parce que lui, il pleure que nous, alors, on doit tous pleurer. Oui, c'est vrai, parfois, il faut pleurer avec celui qui pleure, mais osons aussi être dans la joie et avoir ces différents sentiments dans notre culte. Le culte que Dieu veut, c'est ce culte où on est vrai avec ce que nous vivons. Et l'auteur nous appelle ici à vivre ce culte avec toutes les émotions que Dieu nous a données. Deuxième réflexion, c'est que les temps de silence apparents de Dieu, en fait, sont des bénédictions pour nous. Parce que dans ces temps de silence, Dieu permet que ce qu'il y a vraiment dans le fond de nos cœurs apparaisse. Il permet que ce qu'il y a vraiment en nous fasse surface. Et pas juste notre foi du dimanche ou notre gentillesse des bons jours. Mais dans ces temps de silence, certains réagissent par l'orgueil, afin que l'orgueil et la rébellion qu'il y a dans l'orgueil apparaissent. Et ça peut être une bonne chose pour eux, pour le voir, et être confronté par Dieu. Ou alors pour que la justice de Dieu, quand elle sera manifestée, nous puissions tous dire « Dieu est juste ». Face à son orgueil, face à sa méchanceté, face à sa dureté, ce n'était pas juste le bon collègue. Mais tout a été révélé et nous sommes contents que Dieu fasse justice. Chez d'autres, c'est dans ce temps de silence, c'est la soif de justice qui va apparaître. Et cette soif de justice qui va conduire vers la grâce de Dieu. Et encore une fois, cela doit nous rappeler aussi, en tant que croyants, d'être de vrais amis pour nos familles et nos collègues. Tôt ou tard, ils vont être confrontés à des temps de silence de Dieu. Tôt ou tard, ils vont être confrontés à des moments extrêmement difficiles dans leur vie. Chez certains, comme dit, c'est la rébellion. Chez d'autres, c'est pourquoi ? Jusque à quand ? Où est Dieu ? Et si nous ne sommes pas là dans ces moments-là, on ne pourra pas les aider. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être des vrais amis, qui même s'ils sont parfois contre Dieu, d'être présents à côté d'eux, pas pour leur faire un bourrage de crâne, pas pour les obliger, mais simplement s'ils veulent écouter, les orienter vers Dieu, être cette lumière comme on l'a chanté. Si nous ne sommes pas là, ce n'est pas vers nous qu'ils vont se tourner, et ils vont se tourner vers d'autres réponses. Chez d'autres encore, et peut-être certains qui se disent « croyants, chrétiens », le fond du cœur aussi va se manifester. Quand Dieu semble silencieux, est-ce que je me mets en colère contre Dieu parce qu'il n'agit pas ? Hier, on a regardé Narnia avec les enfants. Je ne sais pas si vous aimez, c'est vraiment des belles histoires. C.S. Lewis, encore une fois. On a regardé Prince Caspian. Et à un moment, ben, Aslan, alors que les rois et reines sont revenus dans le pays de Narnia, Aslan n'est pas là. Absent, Aslan est absent, pardon. Il est silencieux. Et il y a une bataille qui se prépare. Et le grand roi Peter est face à cette bataille qui doit se préparer. Et à un moment, il va dire, Aslan n'est pas là. On a trop attendu Aslan. Maintenant, on va faire ceci. On se débrouille comme nous, on veut. On va faire ce que nous, on veut. Dans les temps de silence de Dieu, comment réagissons-nous? Qui est-ce qui va diriger? Est-ce que c'est le moi qui va ressortir? J'ai trop attendu la réponse de Dieu. Ça fait maintenant 15 ans que j'attends un époux ou une épouse. Maintenant, je vais faire ce que moi, je veux. Dieu, tant pis, t'as pas donné la réponse, alors c'est moi qui décide maintenant, comme le grand roi Peter. Tu n'as rien fait pour moi, alors tant pis. Quand les difficultés arrivent, au final, ma vraie foi est manifestée. En quoi je crois? En moi? En mon bonheur? Ou en Dieu? Question. Dans les temps de silence apparent de Dieu, qu'apparaît-il dans ton cœur? Qu'est-ce qui apparaît dans ton cœur? Et je t'encourage à vraiment écouter ce qu'il y a dans ton cœur pour t'en remettre à Dieu. Et troisième réflexion, j'aimerais nous laisser, c'est que le psalmiste ici nous rappelle une réalité très forte, verset 15. « Brise le bras du méchant, punis sa méchanceté qu'il disparaisse à tes yeux. » Le psalmiste s'attend ici vraiment au jugement de Dieu. Dieu va faire justice. Et comme dit littéralement, « cherche ». Cherche, Seigneur, volontairement, cherche, Seigneur, activement, cherche, Seigneur, complètement le mal du méchant et qu'il disparaisse. Cherche-le jusqu'à ce que tu ne le trouves plus. Et au final, notre psalmiste ici sépare le monde en deux catégories d'êtres humains. Les orgueilleux oppresseurs et les humbles opprimés. Cherche ce mal et détruis entièrement le mal. Fais justice. Et plus tard, Paul va citer notre psaume ici. Il va citer le verset 7, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et voilà dans quel contexte il le cite. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Démonstration. Paul est en train de nous dire la séparation du monde de Dieu est encore plus drastique que celle de notre psalmiste ici. Pour Dieu, le monde ne se sépare pas simplement entre les oppresseurs, orgueilleux et les humbles opprimés. Le monde se sépare les hommes rebelles d'un côté. Et c'est tous les hommes. Tous. Il n'y en a pas un seul. Et Dieu, dans sa sainteté. Et le psalmiste nous dit ici, cherche leur mal. Cherche le mal à chaque homme. Cherche tout le mal qui existe jusqu'à ce que tu ne le trouves plus. Autant l'oppresseur que l'opprimé. Autant l'orgueilleux que l'humble ont fait le mal. Aucun de nous ne peut se targuer d'être juste. Et si Dieu jugeait immédiatement toute méchanceté, soyons honnêtes, il n'y aurait plus un être humain sur cette planète. Et pourtant, notre psalmiste nous invite, Seigneur, juge. Seigneur, interviens contre tout mal. Et la bonne nouvelle de l'auteur, c'est que Dieu est patient. Dieu n'intervient pas tout de suite. Le silence de Dieu, au final, est quelque part bon pour chacun d'entre nous. Parce que si Dieu n'était pas silencieux, si Dieu intervenait immédiatement contre toute forme de méchanceté, d'injustice, de mal, nous serions, toi et moi, détruits. Dieu retient son jugement et c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle a été complétée et rendue parfaite, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, par le fait que Dieu est venu effectivement répondre au mal. Dieu est effectivement intervenu contre toute injustice. Il est venu chercher et il est venu trouver et répondre à tout mal. Mal des oppresseurs et des opprimés, mal des riches et des pauvres. Il est venu le chercher et le trouver en le subissant lui-même. En subissant lui-même ce mal, en subissant lui-même ce rejet, en subissant lui-même l'humiliation des orgueilleux, d'être capturé par les méchants, d'être opprimé par les oppresseurs, d'être exploité et tué, comme nous dit le psaume ici. Il a accepté cela à la croix en Jésus-Christ seul. Et ici, à cette croix-là, la colère de Dieu est tombée et Dieu a débusqué tout mal. Dieu a cherché et a trouvé ton mal et mon mal. La justice a été rendue. L'oppression et l'orgueil ont été condamnés. Et par cette intervention de Dieu, le pécheur que je suis peut être pardonné et relevé et avoir de l'espérance. Par Jésus-Christ seul, l'oppresseur, le pécheur peut être pardonné et participer à ce règne de justice qui vient et que nous décrit l'auteur. Mais pendant ce temps de patience, et nous sommes encore dans ce temps de patience de Dieu qui va durer jusqu'au retour de Jésus-Christ, l'auteur nous dit, et Dieu nous dit, il y aura encore des moments difficiles. Mais trouvons notre paix dans la justice de Dieu, non pas seulement celle qui va s'accomplir, mais celle qui a déjà été accomplie et dans laquelle on va se réjouir et fêter dans un instant. Mais dans ce temps de patience, Dieu continue d'appeler les orgueilleux. Dieu continue d'appeler ceux qui ont fait le mal, de manière universellement reconnue comme nos dictateurs, mais aussi ceux qui le font de manière plus cachée. Il les appelle à se confier en Jésus-Christ seul pour encore avoir le pardon aujourd'hui. Question. Veux-tu reconnaître tes fautes ? Veux-tu reconnaître que tu mérites le jugement de Dieu contre tout mal, contre toute injustice, contre toute pensée orgueilleuse, et te confier en lui seul pour recevoir son pardon, sa justice et vivre son règne de paix ? C'est au final la bonne nouvelle que nous annonce notre auteur. Mauvaise nouvelle, nous vivons dans un monde mauvais et dur. Et nous allons le vivre et le subir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se confier dans ce Dieu qui voit, qui sait. Et tellement ça lui est insupportable qu'il est venu chercher et trouver et régler le mal pour nous afin de nous donner de l'espérance et vivre aujourd'hui sa consolation et sa paix parce que la justice va régner. Je vous invite à prier.